20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. On se glissera ce soir dans la fosse de l'Opéra Garnier en compagnie du chef d'orchestre Harry Biquette et de musiciens de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. Des musiciens qui relèvent un défi en ce moment, celui de jouer la musique de Handel, la sublime musique de Giulio Cesare, alors qu'ils sont plutôt rompus à Mozart, Verdi, Puccini ou Wagner. Une expérience qu'ils nous raconteront justement ce soir. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Et on commence en Italie. Sa venue à Nice pour le concert de Nouvel An avait déjà fait polémique récemment. La chef d'orchestre italienne Beatrice Venezzi, fille d'un ancien dirigeant d'un parti d'extrême droite, conseillère à la culture pour le gouvernement italien et proche de la présidente du conseil Giorgia Meloni. Beatrice Venezzi donc fait l'objet de nouvelles critiques dans son pays. La semaine dernière à Palerme, où elle dirigeait deux concerts, les musiciens de l'orchestre ont tout simplement refusé de se lever et de la saluer, comme le veut la tradition. Or, son nom circule en ce moment et avec insistance pour prendre la direction artistique du Teatro Massimo de Palerme. On parle également d'elle pour occuper un poste à responsabilité au Teatro San Carlo de Naples ou encore à la Scala de Milan. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'autre voyage, c'est le titre de la nouvelle production de l'Opéra Comique à découvrir dès demain jusqu'au 11 février. L'autre voyage, c'est l'extension scénique en quelque sorte de ce magnifique et bouleversant programme Schubert que Raphaël Pichon nous avait offert l'année dernière avec son ensemble Pygmalion et avec le baryton Stéphane Degout. Avec la complicité de la metteuse en scène Sylvia Costa, Raphaël Pichon a imaginé un spectacle autour de partitions oubliées ou inachevées de Schubert avec des textes de Heine ou de Goethe sous la forme d'un récit mené par un être hanté par la mort, alias Stéphane Degout, avec à ses côtés Siobhan Stack qui chante l'amour ou encore Laurence Kilsby qui, elle, incarne ici l'amitié. Le violoniste Augustin Dumay, le pianiste Michel D'Alberto et le quatuor Hermès à l'affiche du prochain concert de l'autre saison, cette saison musicale qui se tient en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris en faveur des sans-abri sous la houlette de David Grimal. Alors ce sera vendredi soir, un programme dédié à Chausson avec son célèbre concert pour piano, violon et quatuor à cordes, une œuvre qui rend hommage au grand maître français baroque qui a des accents foréen, voire onirique, notamment dans la mélancolique et ensorcelante sicilienne. Quelques notes de la sicilienne du concert d'Ernest Chausson avec Augustin Dumay en compagnie ici de Jean-Philippe Collard et du Quatuor Nuire. Augustin Dumay qui jouera le concert de Chausson vendredi soir avec Michel D'Alberto et le Quatuor Hermès. Ce sera en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles dans le cadre de l'autre saison. L'entrée est libre, une quête est faite à la fin du concert au bénéfice des Margéniaux, cette association qui aide à la réinsertion des sans-abri.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Se donne actuellement et jusqu'au 16 février au Palais Garnier la fameuse production de Giulio Cesare et de Handel, mise en scène par Laurent Pelli, avec ici Lisette Oropesa dans le rôle de Cléopâtre et Gaël Arquez dans celui de Jules César. Et dans la fosse, non pas un orchestre venu du monde baroque, mais l'orchestre Maison, l'orchestre de l'Opéra National de Paris, sous la direction d'Harry Biquette. Harry Biquette, grand spécialiste de Handel, que je suis allée rencontrer entre deux répétitions, il nous parle tout d'abord de la naissance de sa passion pour ce compositeur.
C'est vraiment difficile à expliquer parce que je viens d'une tradition très différente. J'étais pianiste au conservatoire à Londres et j'ai beaucoup joué de musique romantique ainsi que de la musique contemporaine. J'ai aussi joué beaucoup de Bach au piano. Je ne connaissais que peu de musique du XVIIIe siècle. Handel est venu à moi quand j'ai commencé à écouter des orchestres jouant sur des instruments d'époque. Et je crois que ce que j'aime chez Handel, c'est que c'est de la musique très directe. Et même si vous ne savez pas de quoi parlent les airs, si vous ne parlez pas italien, vous entendez cette musique et vous comprenez l'émotion. Il parle d'une manière très directe et très humaine. Et je trouve ça très émouvant.
Vous avez dirigé beaucoup de ces opéras. Est-ce qu'il y a, selon vous, une grande diversité dans les opéras de Handel ?
Oui et non. Il était très connu, comme beaucoup de personnes au XVIIIe siècle, pour recycler sa musique. On aime dire que c'est le premier compositeur écologique, parce qu'il a repris beaucoup de son travail, de ce qu'il a écrit quand il était plus jeune et adolescent en Italie. Et il a utilisé ce matériel pour des opéras plus tardifs. Vous le voyez constamment retravailler des idées.
Giulio Cesare, which is one of three pieces he wrote in the same year. It was amazing.
Cependant, Giulio Cesare, qui est l'une des trois œuvres qu'il a écrit la même année, c'était un incroyable moment de productivité pour lui, contient beaucoup de musique originale. Et l'œuvre est vraiment associée au personnage.
Cleopatra's journey from a young...
Il voyait le parcours de Cléopâtre comme celui d'une jeune reine d'Égypte gâtée, qui finalement se surprend elle-même à tomber amoureuse et ressentir de vraies émotions. Et vous percevez cet immense travail à travers la musique incroyable qu'il a écrit pour elle.
Dans cet opéra Giulio Cesare, il y a quelques-uns des plus beaux airs de Handel. On sait que Handel avait ce talent à écrire de merveilleuses mélodies. Ces airs, ils révèlent donc la profondeur et la psychologie des personnages.
Yeah, absolutely, and it's always in the simplest form.
Oui, absolument, et c'est toujours de la manière la plus simple. On oublie que Handel était le compositeur d'opéra le plus célébré du XVIIIe siècle, devant tous les autres. Et même plus tard, Mozart a passé beaucoup de temps à réarranger ses musiques. On sait aussi que Bach connaissait quelques-unes de ses musiques et que Beethoven a dit à propos d'Handel « Si vous voulez avoir le plus d'impact avec le moins de notes, regardez ce que fait Handel. » Nous savons que les airs les plus simples sont en fait très compliqués à composer, parce qu'ils doivent paraître très naturels. Mais on sait à partir de ces brouillons, où on voit ce qu'il barre et ce qu'il garde, ce qu'il réécrit pour le rendre plus concis, qu'il a travaillé vraiment dur pour composer une musique simple et très profonde.
Thank you. Quelques notes de l'ouverture de Giulio Cesare et de Handel captées lors de la générale de cette production donnée actuellement à l'Opéra Garnier. Harry Biquette dirige donc ici l'orchestre de l'Opéra de Paris qui joue sur instruments modernes et qui n'avait pas joué ce répertoire depuis presque 30 ans. Le chef anglais nous raconte justement la façon dont il a amené ses musiciens à relever ce défi.
Vous savez, avec un nouvel orchestre, on ne sait pas comment les musiciens vont entrer dans la musique et où ils vont vouloir aller. Mais ils ont été absolument fantastiques. Bien sûr, l'un des problèmes est qu'ils jouent des instruments qui ne sont pas vraiment faits pour jouer cette musique. Beaucoup d'entre eux jouent sur des violons du 18e siècle, mais dont les cordes sont en métal, avec des archets qui sont plus lourds, plus longs, plus tendus. J'aime dire qu'ils conduisent des Ferrari, mais sur de petits chemins de campagne. Et c'est vraiment très difficile parce que, avec une Ferrari, on veut juste une grande route ouverte où on peut aller à 150 km/h. Mais dans cette musique, on a aussi besoin d'aller très vite et de réussir à obtenir beaucoup de couleurs différentes dans la même mesure. C'est techniquement difficile à faire. Certains ont acheté des archets baroques et à partir du moment où ils l'ont utilisé, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus facile avec un archet un peu plus court. Je suis content de leur enthousiasme et de leur envie d'essayer ces différentes idées.
Mais le résultat est différent de celui que vous obtenez avec un orchestre qui joue sur instruments d'époque.
Bien sûr, je n'essaierai jamais de faire sonner un orchestre moderne de la même manière qu'un orchestre baroque. Ce serait comme essayer de faire chanter un chanteur comme un autre chanteur. Les cordes vocales sont différentes. Ce que je veux, c'est qu'ils créent leur propre atmosphère de Handel, pour eux et avec leur instrument. Oui, on parle de trilles et d'ornements, de phrasés et de ce genre de choses. Mais ce n'est pas de façon didactique. Ce n'est pas « vous devez faire ça parce que c'est la manière dont Handel doit être joué ». Les gens et les chanteurs ne se produisent pas bien s'ils ne sentent pas qu'ils investissent une partie d'eux-mêmes. Et c'est très dur pour un orchestre de jouer ce genre de musique sur des instruments qui ne sont pas faits pour. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à comprendre la profondeur de cette musique. Et quand vous avez un casting aussi bon que celui que nous avons, je pense que chaque musicien qui écoute les chanteurs se dit qu'il devrait commencer à les imiter. Et cela rend mon travail plus facile.
Alors, ce n'est pas la première fois, Harry Biquette, que vous dirigez la musique de Handel avec des orchestres qui jouent sur des instruments modernes.
Non, j'ai passé 10 ans au Bayerische Staatsoper en faisant ce répertoire et au Met. J'ai joué tous les opéras de Handel dans plusieurs endroits. C'est intéressant parce que je ne me souviens même pas de la première fois que j'ai travaillé dans ces institutions. Parce qu'à chaque fois que je reviens, on recommence à un nouveau niveau. Il y a des choses qu'on comprend mieux. Et on travaille toujours un peu plus loin. C'est un voyage. Et je n'attends pas que ce soit parfait immédiatement. Mais si cela a du cœur, de la conviction, des couleurs et de l'émotion, c'est ce qu'est Handel. Donc, je serai heureux.
Donc la musique de Handel, finalement, peut s'adapter à toutes sortes d'instruments différents, à toutes sortes de salles de concert, y compris des salles immenses comme celle du Metropolitan Opera ou de l'Opéra de Chicago, où vous dirigez également.
Absolument. Et je dirige The English Concert chaque année à Carnegie Hall, dans un opéra de Handel, en concert et toujours à guichet fermé. C'est une fois par an, un dimanche après-midi. Les gens viennent de très loin pour ce concert. Il ne faut pas un plus grand orchestre. Je veux dire, c'est une superbe salle pour faire cela. Mais il n'y avait pas de concerto du temps de Handel. Donc dire que ce n'est pas authentique, eh bien oui, ce n'est pas authentique. Mais je pense qu'il y a une manière de jouer, de ne pas essayer de remplir la salle avec de grands sons, comme on le fait avec Wagner, avec cette sensation que la musique flotte tout autour de nous. Handel est intelligent, il vous attire. Donc même dans un grand lieu, je trouve que la qualité du silence et la qualité d'écoute dans l'audience est un test. Si vous arrivez à ce que les gens ne respirent plus, alors vous savez qu'ils sont impliqués.
Et diriger Handel ici dans la fosse de Garnier, est-ce que finalement c'est l'endroit idéal pour cette musique ?
It's a very good question. I don't know. I mean, it's a nice.
C'est une très bonne question. Je ne sais pas. J'aime Garnier parce que les proportions sont vraiment bonnes pour nous. Et nous ne savons pas comment les théâtres originaux, le King Theatre à Londres ou le vieux Covent Garden, étaient faits. On ne sait pas comment était l'acoustique. En général, la musique baroque est faite pour un palazzo ou un lieu avec une plus grande acoustique. Mais en termes d'intimité et de lien avec la scène, c'est un endroit absolument merveilleux pour jouer.
De la générale de cette production de Giulio Cesare et de Handel, avec ici Gaël Arquez en Jules César et l'orchestre de l'Opéra National de Paris sous la direction d'Harry Bickett. Alors comment les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris vivent-ils cette nouvelle expérience dans le répertoire baroque ? Visiblement avec beaucoup d'enthousiasme, comme me l'ont confié Cyril Lacroutz, violoncelle solo de l'orchestre, et Cécile Tête, violoniste chef d'attaque.
C'était une vraie surprise et en fait après on s'est un peu tous pris au jeu je pense. Ce qui se passe c'est que je crois qu'on est tous assez contents de faire cette série et découvrir un autre répertoire.
C'est une chance en fait de pouvoir faire ce genre de répertoire aussi dans cette salle que l'on connaît pourtant très bien par rapport à la disposition dans la fosse, moi-même par rapport au continuo, c'est un exercice qui est assez différent. C'est très interactif. C'est un peu le format musique de chambre, en fait. C'est-à-dire que vraiment, entre le clavecin, le théorbe et puis la voix, il y a vraiment quelque chose d'immédiat. Et puis, d'une manière acoustique aussi, je joue pas sur instrument d'époque, mais je joue avec mon archet comme un archet classique. C'est-à-dire que j'ai une position assez différente pour, justement, en termes d'acoustique, on ait vraiment une sonorité qui se rapproche au plus du violoncelle baroque.
Alors c'est vrai que vous jouez sur des instruments modernes, mais dans une approche, j'imagine, comme on dit, historiquement informée. Qu'est-ce que cela change par rapport au violon, par exemple ?
Ça passe par, en effet, peut-être aussi dans l'archet, peut-être une position un petit peu classique pour alléger un peu le son. Et en fait, ce qu'il a tout de suite demandé, le chef d'orchestre, c'est des cordes à vide, n'hésitez pas, chose qui est un petit peu proscrit normalement, où on est tout le temps en train de vibrer et de ne pas avoir de cordes à vide, et des positions basses. Alors ça, c'est du jargon un peu violonistique, mais vraiment ne pas aller dans certains endroits de l'instrument, vraiment rester tout en bas, comme à l'époque baroque, où on n'avait pas de barre et de mentonnière qui faisait qu'on pouvait accrocher le violon. Et donc là, il faut laisser la main porter le violon, la main gauche, et donc être dans les positions basses plutôt. Donc c'était amusant d'entendre ça et d'entendre de nouvelles visions sur l'instrument. Il y a quelque chose de pur, en fait, qui sonne naturellement. Il n'y a pas d'artifice, en fait, donc c'est assez simple. Et je trouve que dans la fosse, là, nous, on est positionné très haut, une position très haute. Donc, en fait, on est proche de la scène, du public. Donc, on ne se sent pas enfoncé comme un Wagner où on se sent un petit peu pris dans la fosse. Là, on sent que notre son direct va dans la salle. Donc, c'est assez agréable, cette sensation.
Et alors, ce sont des textures sonores différentes, la musique de Handel. Quel plaisir cela provoque ?
D'une part, on est encore au plus près du texte. Il y a un côté très théâtre et vraiment qui est très agréable. Et puis, on change en fait de type d'expression, c'est-à-dire que l'ornementation, mais la manière d'interagir avec la musique et donc avec les voix, on passe par d'autres moyens, contrairement à Wagner ou à Puccini. On utilise la salle aussi autrement. Je trouve que c'est un écrin parfait pour ce genre de répertoire. Pourtant, on a l'habitude de cette salle et on l'aime tous beaucoup. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis dans cet orchestre. Ça nous permet vraiment de l'utiliser au mieux et de pouvoir justement jouer avec le drame, avec et je crois que la mise en scène en plus est vraiment très bien, donc ça tombe justement bien.
Et justement, cette balance avec le plateau, l'équilibre à trouver avec les chanteurs, puisque dans le baroque, ils n'ont pas la même projection que lorsqu'ils chantent Wagner, par exemple, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est d'important à prendre en compte?
C'est-à-dire qu'il faut toujours ne pas les couvrir, mais c'est très bien écrit pour ça. J'ai un peu compté, là, dans la fosse, on est 35, pas plus. Donc, en fait, c'est vraiment peu. Alors, il faut ajuster avec beaucoup d'écoute de la voix. Il a réinsisté sur si vous qui êtes au plus près des chanteurs n'entendez pas les chanteurs, c'est que vous jouez trop fort. Donc, il faut ajuster tout le temps. Ça, c'est vrai qu'on a l'habitude de pratiquer ça pour tous les opéras, mais qu'on nous le redise, ça fait pas de mal, de toute façon.
C'est vrai que Jules César, c'est l'un des opéras les plus populaires, les plus aimés de Handel, dans lequel on retrouve parmi les plus beaux airs. Est-ce qu'il y a des moments particulièrement exaltants pour vous dans la fosse, dans cet opéra ?
Oui, il y a deux, trois airs où en fait... On peut être, nous, un peu en souffrance parce qu'on c'est un peu statique, on reste sur place et on bouge pas beaucoup. Donc ça, c'est des positions qu'on aime pas tellement jouer à l'orchestre parce qu'on aime quand ça bouge un peu. Et en même temps, en fait, on est nourri par ce qui se passe sur le plateau parce qu'il y a des frottements, des appoggiatures, des retards et qui, en fait, sont merveilleusement chantés d'ailleurs, je dois dire, partout le plateau. Du coup, la petite, pas souffrance, mais je veux dire, d'être là et de devoir continuer et de savoir qu'il va y avoir un DAC à peau et tout ça, mais en fait le chant prend le dessus, donc il y a vraiment des moments où je me dis, ah dis donc, oui, on a vraiment de chance de faire ce métier et de partager cette émotion.
C'est un répertoire qui est très épuré, il y a très peu de choses et pourtant il y a énormément d'émotions. Et c'est ça qui, je trouve, passionnant, c'est parce qu'avec finalement très peu d'instruments, une basse continue, un peu d'harmonie, une voix, il n'y a pas justement d'utilisation le côté justement bel canto, tout cet artifice qui est passionnant, enfin on adore ce répertoire aussi. Mais on se rend compte qu'avec très peu de notes, très peu de choses, on peut donner une émotion, quelquefois dramatique, quelquefois extrêmement intime, enfin amoureuse, tout ce qu'on a comme facette en fait. Et ça, c'est à Garnier, c'est fabuleux.
Après ce Jules César, sur quelle production, dans quel univers enchaînerez-vous ? Très différent, j'imagine.
Pour ma part, ce sera pour Simon Boccanegra de Verdi. Donc là, je suis en train de le réécouter et je me dis aussi, oh, quelle beauté aussi. Donc j'ai hâte aussi de me replonger dans Verdi, qui est vraiment un des maîtres de l'opéra.
puis un univers sonore complètement différent.
Ah bah, oui, oui, là, on va pouvoir vibrer, on va pouvoir monter dans les cordes, on va pouvoir faire des petits accompagnements verdiens très spécifiques, surtout pour les seconds violons qui sont sollicités. J'ai hâte de me replonger là-dedans, et puis après, d'autres aventures.
Je tiens justement à dire qu'on a beaucoup de chance en ce moment d'avoir une programmation très éclectique. Justement, on va du contemporain, on fait évidemment du ballet, du répertoire d'opéra, voilà, du baroque. C'est passionnant parce que justement, pour un orchestre, c'est très important de faire des choses différentes, contrastées. Enfin, j'adore faire 20 lacs des cygnes, mais c'est vrai que de faire voilà, du baroque, de faire aussi des créations contemporaines, je trouve que l'opéra est un grand orchestre aussi parce qu'il fait du répertoire et aussi des créations. Et ça, c'est assez propre à cette maison. Quand on va dans d'autres théâtres, dans d'autres pays, il y a beaucoup de répertoires, mais c'est l'un ou l'autre. Et là, on a quand même pas mal de choses variées. Et j'espère que le public, justement, en profitera.
Lisette Oropesa en Cléopâtre et Gaël Arquez en Jules César dans cette production de Giulio Cesare et de Handel avec donc l'orchestre de l'Opéra National de Paris et Harry Bickett dans la fosse. C'est jusqu'au 16 février au Palais Garnier.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Il n'y a pas que les musiciens de l'orchestre de Paris qui s'approprient la musique ancienne sur instruments modernes. Des pianistes jouent volontiers Bach, Rameau ou Couperin. C'est le cas notamment du jeune et formidable pianiste britannique Martin James Bartlett, dont Warner publie cette semaine un nouvel album placé sous le signe de la danse à travers le répertoire français de Rameau et Couperin, justement, jusqu'à Ravel, Debussy et Reynaldo Hahn. Un album élégant, sensuel et contrasté, à l'image de ce répertoire que ce jeune pianiste sert avec beaucoup de poésie. Les barricades mystérieuses de Couperin par le pianiste Martin James Bartlett, un extrait de ce bel album intitulé La danse qui vient de paraître chez Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Julien Masmondé qui nous parlera de musique contemporaine mais aussi de free running. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.